Et donc nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Et nous allons voir ce matin les versets 1 à 6. Apocalypse 12, les versets 1 à 6. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Jusque-là, la lecture dans la parole. Nous reprenons donc notre série sur le livre de l'Apocalypse et nous avons déjà dit que l'Apocalypse se divise en 7 visions. Nous sommes ici à la 4e. Nous avons vu la première, Christ au milieu des chandeliers. Ensuite, nous avons vu le livre scellé de 7 sceaux et ensuite les 7 trompettes et donc maintenant la 4e vision. Mais on peut aussi diviser le livre de l'Apocalypse en 2 parties. La première partie, qui nous a amené jusqu'à la fin du chapitre 11, c'est essentiellement concentré sur des visions générales, premier mot sur la feuille, des visions générales qui nous présentaient ce que l'Église doit attendre dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il nous parlait de tribulation, d'épreuves, de persécutions, en soulignant que le monde des rebelles est en guerre contre Dieu et contre son Église. Et nous avons aussi vu que l'Église est appelée à persévérer, qu'il y a aussi cette réalité que le Seigneur Jésus-Christ règne, qu'il agit, c'est lui qui ouvre les sceaux, c'est lui qui agit dans l'histoire. Et très souvent, il juge, parce que de cette manière, il freine le mal. Et il prend soin de son Église, il nourrit son Église. Et nous avons vu cela de différentes manières tout au long de ces 11 premiers chapitres, ce à quoi l'Église doit s'attendre dans l'histoire. Et la deuxième partie, donc, qui commence ici avec le chapitre 12, va considérer la même réalité, mais elle va regarder sous la surface ou derrière la scène, dans les coulisses. Elle va nous montrer le combat spirituel, deuxième mot sur la feuille, le conflit spirituel qui se passe réellement. Et on va voir cela dans les chapitres à venir. Et on va commencer par une présentation des différents acteurs dans cette guerre sainte. Dans les chapitres 12 à 15, les acteurs vont nous être présentés les uns après les autres. Il y a... nous allons voir ce matin, il y a la femme, il y a le dragon, il y a le fils, il y a la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, il y a Babylone la prostituée, il y a les personnes qui portent la marque de la bête. Et puis dans les chapitres 16 à 20, on va voir les mêmes acteurs dans l'ordre inverse et tous les ennemis de Dieu, tous les ennemis de Christ, on va les voir connaître la défaite et être jugés par le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de choses à voir dans ces chapitres. Cette vision donc, que nous avons ici au chapitre 12, dans les versets 1 à 6, elle est au centre du livre. Et beaucoup de personnes disent que cette vision est en fait la vision clé de ce livre. Je pense qu'on peut dire cela et qu'on peut même rajouter la vision du chapitre 1. Le chapitre 1, rappelez-vous, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ glorifié, une vision du Seigneur Jésus-Christ glorifié au milieu de son Église. Et cette vision, nous l'avons gardée en tête pendant toute l'étude de la première partie de ce livre. Et donc la vision que nous avons ici, une nouvelle deuxième vision clé, qui parle de ce conflit, nous allons la garder en tête dans la deuxième partie. Nous allons nous rappeler de cela tout au long de l'étude de cette deuxième partie. Et cette vision nous renvoie en quelque sorte à cette affirmation que le Seigneur Jésus-Christ a faite le dernier soir avec ses disciples. En Jean 16, verset 33, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc ce matin, nous allons voir les différents acteurs qui nous sont présentés dans ces quelques versets. Le premier acteur, c'est la femme. Troisième mot sur la feuille, la femme dans le ciel, verset 1. « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » Je vous renvoie juste à la vision que nous avons vue qui termine le chapitre 11, où nous avons vu le ciel ouvert, le temple et l'arche de l'Alliance qui est apparue. Et qui a souligné la réalité que voilà le problème du péché a été traité, qu'il n'y a plus de barrière, que l'on peut s'approcher de Dieu par le chemin que Dieu a ouvert par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et donc cette nouvelle vision que nous avons ici, l'apôtre Jean est très clair. Il ne décrit pas une femme réelle, il ne décrit pas une personne, parce qu'il dit que c'est un signe. Un signe, un grand signe apparu dans le ciel. C'est un symbole. Alors, qui est cette femme? Vous ne serez pas surpris si je vous disais que les catholiques romains affirment que cette vision décrit la Vierge Marie. Mais bien entendu, cela n'est pas possible parce que les détails ne correspondent pas. Alors, il y a une analogie, bien entendu, parce que Marie fait partie de l'Église de Jésus-Christ. Parce que c'est elle que Dieu a choisie pour faire naître le Seigneur dans ce monde. Mais il y a quelque chose de plus grand. On va le voir au verset 17, par exemple, de ce chapitre 12, où la femme qui est décrite ici est aussi décrite comme la mère de tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Qui est alors cette femme? Cette femme est la communauté fidèle, quatrième mot sur la feuille, la communauté du peuple que Dieu s'est choisi dans son alliance. Et c'est la vision donc que nous avons ici. C'est au travers de cette communauté que Dieu a choisi, de ce peuple. C'est au travers de cette communauté que Dieu va envoyer son Fils dans le monde, le Sauveur qui est promis depuis le Jardin d'Éden. Et sont inclus dans cette communauté, bien entendu, les croyants de l'Ancien Testament, mais aussi les croyants du Nouveau Testament, le peuple vivant avant la venue du Christ, mais aussi le peuple qui est vécu après la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et on le voit ça parce que cette femme nous est décrite avant qu'elle enfante, mais aussi après avoir enfanté. On voit cette femme après, on la voit avant qu'elle donne naissance à son fils, mais on la voit aussi après qu'elle ait donné naissance. Et donc, l'Apocalypse, comme il l'a déjà fait, nous l'avons déjà vu, souligne cette réalité qu'il n'y a qu'une seule Église, qu'un seul peuple de l'Alliance, qu'un seul peuple de Dieu. Il n'y en a pas deux, comme certains voudraient le dire, il n'y en a qu'un seul. Et encore, c'est une autre manière de le décrire ici. On voit la femme avant qu'elle donne naissance et on la voit après. En Galates 4, verset 26, Paul, qui écrit à des croyants d'origine païenne, leur dit ceci, « La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » L'Église est l'épouse de Christ, mais c'est aussi elle qui élève les enfants de Dieu. L'Église, donc, l'épouse, la femme, pardon, est donc l'Église, la communauté du peuple fidèle que Dieu s'est choisi dans son alliance. Mais ensuite, Jean va décrire cette Église. Et c'est une vision qui est merveilleuse parce qu'il décrit une Église qui est glorieuse. Il ne décrit pas l'Église comme nous, on a tendance à la voir, du point de vue de ce monde, ou quand on regarde à nous-mêmes, quand on regarde à nos faiblesses. Mais il nous décrit l'Église comme Dieu la voit. Elle est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle est glorieuse, cinquième mot sur la feuille. Elle porte, elle est entourée du soleil. Elle exerce l'autorité spirituelle. La lune est sous ses pieds. La couronne est la couronne de la victoire en Christ. Et elle est chargée, elle est enceinte, elle va apporter Christ dans le monde. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le soleil, la lune et les étoiles sont des symboles qui décrivent Israël, qui décrivent le peuple de Dieu. Rappelez-vous la vision que Joseph a eue en Genèse 37. Il a vu son père, il a vu représenté par le soleil, ses frères et sa famille représentée par les 12 étoiles. Et donc on a la même imagerie ici. Cette femme est le peuple de l'Alliance. Mais en Apocalypse 1, on a aussi vu que les étoiles dans la main du Seigneur Jésus étaient les anges des églises. Et donc ici nous avons l'Église, la nouvelle Israël de Dieu. Et si on peut imaginer nous-mêmes la vision de cette femme qui rayonne, entourée du soleil, qui rayonne dans le ciel, on ne peut être qu'encouragé parce que cette vision nous dépeint nous, et dépeint l'Église de Christ, l'Église chrétienne, le peuple de l'Alliance. Elle nous dépeint l'Église comme Dieu la voit à la lumière de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et même si nous sommes conscients de nos faiblesses, que nous n'avons aucun mérite, que nous sommes pécheurs, nous devons nous rappeler que Dieu nous voit comme quelqu'un qui a été lavé de ses péchés. Le péché n'aura pas le dernier mot avec nous si nous sommes à Christ. Le péché ne régnera pas sur nous parce que c'est le but de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Il nous voit en Christ, il nous voit glorieux. Nous devons donc élever nos cœurs, sachant que Dieu nous voit ainsi à travers l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Hendrickson, un commentateur, écrit ceci. Il dit « Sur terre, cette Église peut bien paraître insignifiante, méprisable et ridicule, mais vue du ciel, elle est toute rayonnante. Tout ce que le ciel peut donner de gloire et de splendeur, lui est prodigué. » Et c'est ce qui nous est montré ici. Tout ce que le ciel peut donner de gloire et de splendeur nous est prodigué si nous sommes à Christ, parce que Dieu nous voit en Christ. Ésaïe 62, verset 5, va utiliser une image forte qui parle du peuple, de l'Alliance, de l'Église, et de tous ceux qui font partie de ce peuple. Et il utilise cette image, il dit « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » C'est ainsi que nous devons voir, nous devons avoir aussi cette vision de l'Église. Bien sûr, nous nous sentons insignifiants, et c'est vrai, en dehors de la grâce de Dieu. L'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus-Christ, pour nous, pour son peuple, nous rend non seulement acceptables devant Dieu, mais il fait de nous un sujet de joie pour Dieu son Père. L'Église est glorieuse. Et puis, j'en précise que cette Église, cette femme, est enceinte. Verset 2, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Cette image donc utilisée pour décrire l'Église de l'Ancien Testament qui attend la venue du Sauveur, la venue du Messie. Une phrase pour résumer toute l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Cette femme, elle avance dans l'histoire et son but, elle est d'amener le Fils de Dieu, sixième mot sur la feuille. Elle va amener, apporter le Fils de Dieu, le Messie promis à ce monde. Un commentateur le résume en disant que l'Israël de l'Ancien Testament était enceinte de Christ. Et génération après génération, les croyants attendaient ce Messie qui avait été promis. Ils attendaient ce Messie qui devait venir. Quelque chose de long, quelque chose qui a duré pendant des générations. Quand est-ce que ce Messie va venir? Quand est-ce que ce Sauveur va arriver? Toujours Ésaïe 26, par exemple, verset 27, utilise cette même image. Il dit « Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel, ou devant toi, selon différentes traductions. » Mais c'est ce que nous avons été, dit le prophète. Nous étions là, attendant la promesse, la réalisation de cette promesse. Mais bien sûr, cette promesse est accomplie, le Fils est venu. Et cette vision nous présente aussi la mission, septième mot sur la feuille, la mission de l'Église. L'Église, cette femme est enveloppée de lumière. Nous sommes appelés à briller de la lumière de la parole de Dieu. Voilà, c'est ça la beauté de l'Église, la gloire de l'Église. Elle exalte le Seigneur Jésus-Christ par la proclamation de l'Évangile. Elle est sainte, nous sommes appelés à être saints. Elle ne se conforme pas au modèle de ce monde, mais à la volonté de Dieu. Bien sûr, nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. Nous sommes le peuple de Dieu. Sa mission est de donner Christ. Notre mission est de proclamer Christ à ce monde comme Seigneur et Sauveur. L'Église n'existe pas pour accomplir un service social, même si ce service est nécessaire, même si individuellement les croyants peuvent être impliqués et sont impliqués dans le social, dans les œuvres sociales. Mais l'Église existe pour proclamer, huitième mot sur la feuille, pour proclamer Christ, pour apporter Christ à ce monde, pour proclamer Christ afin qu'il entre dans les cœurs de ceux qu'il a appelés et qu'il soit réconcilié avec lui. Voilà la mission de l'Église. L'un des buts de ce livre, nous avons déjà dit, est de donner des explications pour comprendre pourquoi l'Église doit passer par certaines expériences. Et nous avons déjà dit que la première partie a souligné plusieurs réalités historiques, plusieurs expériences par lesquelles l'Église doit passer. Et toutes ces expériences, tous ces tumultes, toutes ces épreuves ont une explication, nous avons déjà vu certaines d'entre elles. Par exemple, dans les sept lettres aux Églises, dans les chapitres 2 et 3, nous avons vu qu'une des raisons que Jésus donne était le péché de l'Église. L'Église doit connaître la correction, doit être purifiée. Mais bien entendu, il y a aussi l'opposition du monde. La vision des sceaux, par exemple, nous a montré comment le Seigneur Jésus s'oppose à ce monde afin de permettre à l'Église, afin d'emmener l'Église à travers l'histoire et de l'amener jusqu'à la gloire éternelle. La vision des trompettes nous a montré comment le Seigneur Jésus-Christ retient le péché, mais aussi comment il appelle le monde, il avertit le monde du jugement à venir et il appelle le monde à la repentance. Des choses terribles arrivent pour appeler ce monde à se tourner vers Dieu et à réaliser son besoin de pécheur. L'Apocalypse nous donne donc des explications pour expliquer ce qui se passe dans le monde. Mais ici, au chapitre 12, nous avons sans doute l'explication principale. Pourquoi y a-t-il toute cette souffrance dans le monde? Pourquoi l'Église doit-elle connaître des épreuves, des moments difficiles? C'est parce qu'il y a une guerre sainte, une guerre spirituelle qui se passe derrière, qui se passe dans les coulisses de l'histoire. Et c'est ce que nous montre cette vision. Et donc nous avons le deuxième acteur, deuxième point, le deuxième acteur dans l'histoire, c'est le grand dragon rouge feu, neuvième mot sur la feuille. Verset 3. Un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Il y a un monstre terrible qui est en guerre contre le Seigneur Jésus-Christ et contre son peuple. Et sous la surface donc de l'histoire que nous connaissons, nous voyons un ennemi spirituel, des forces spirituelles qui sont armées pour détruire l'Église. Et Jean ne laisse aucun doute sur l'identité du grand dragon. Il nous dira au verset 9 de ce même chapitre, « Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que le diable est un mythe, c'est une fantaisie. Et on va se moquer, par exemple, en portant un costume rouge avec des cornes, ceux qui regardent le Tour de France, par exemple. Tous les ans, vous avez ce personnage au bord de la route qui court près des cyclistes. Mais on ne peut pas prendre la Bible sérieusement sans croire de manière littérale dans cet esprit mauvais et puissant. C'est un archange déchu qui est maintenant l'ennemi de Dieu. 10e mot sur la feuille. Il est l'ennemi de Dieu, il est l'ennemi de Christ, il est l'ennemi de son Église. On ne peut pas comprendre le monde tel qu'il est si on ne croit pas dans l'existence d'un tel esprit mauvais et puissant qui œuvre dans le monde. Il suffit de regarder autour de nous, de se poser des questions. Comment les gens peuvent-ils se détourner de la lumière pour se tourner vers les ténèbres? Comment se fait-il qu'il y ait autant d'incrédulité? Comment se fait-il qu'il y ait autant de perversion? La raison, c'est parce qu'il y a un ennemi qui fait la promotion de l'incrédulité avec beaucoup d'adresse, beaucoup de force et qui amène des foules à le suivre. Nous avons dans la parole de Dieu différentes descriptions de l'adversaire de Satan. La première apparition, bien sûr, c'est dans le jardin d'Éden, en Genèse 3. Là, il est décrit comme le serpent, 11e mot sur la feuille. Le serpent qui a tenté Adam et Ève et qui les a menés à la chute, à la désobéissance de Dieu. Et quand Dieu va maudire le serpent, il promet la guerre entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » La postérité de la femme, bien sûr, c'est avant tout le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va venir écraser la tête du serpent. Mais en Christ, il y a aussi toute l'Église et le reste de l'histoire. Toute l'histoire, en fait, montre la guerre qui existe entre les incroyants, les serviteurs de Satan, même s'ils ne sont pas conscients qu'ils servent Satan, ils n'en sont pas moins ce n'est pas moins la réalité que ce sont les serviteurs de Satan. Il y a cette guerre, cette inimitié entre les incroyants et les serviteurs de Dieu, ceux qui appartiennent à Christ, les enfants de la femme. Mais il y a aussi donc cette grande promesse dans ce verset de Genèse 3,15, une promesse que Satan connaît, puisqu'il l'a entendue lui-même. Quand le Seigneur dit « Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon ». Et Satan sait que l'enfant doit naître. Il connaît ce verset. Satan sait qu'il va blesser le talon, mais lui, l'enfant va écraser la tête du dragon. Le Seigneur Dieu promet donc l'inimitié entre les deux postérités. Mais l'Ancien Testament utilise aussi un langage imagé pour personnifier le mal sous forme de dragon, sous forme de monstre de la mer, 12e mot sur la feuille. Ésaïe 51, verset 9, par exemple, quand le prophète se rappelle de la victoire de l'Éternel sur Pharaon, il utilise le langage suivant, il dit « N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte, qui transperça le monstre ?» La victoire sur Pharaon, c'est Dieu qui transperce le monstre. Ésaïe 27, verset 1, parlant de l'Assyrie, il dit ceci, « Il tuera le monstre qui est dans la mer. » Mais derrière toute cette image de monstre, bien entendu, il y a le véritable monstre, le dragon qui est le diable, le véritable monstre dans l'histoire. Et l'apôtre Pierre l'appelle, en 1 Pierre 5, 8, un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Jean voit Satan donc comme un dragon rouge feu. La couleur rouge décrit sans aucun doute le sang qui est versé, les intentions de meurtre, de destruction. Jean 8, verset 44, nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui décrit l'adversaire comme étant, par ses mots, il a été meurtrier, 14e mot sur la feuille. Il a été meurtrier dès le commencement. Et si nous avons donc des différentes descriptions dans la parole de Dieu, nous avons ici cette description que Jean nous donne. Il écrit « Ce dragon a 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. » Dans la mythologie, un dragon avec plusieurs têtes était quasiment invincible. Personne ne pouvait remporter la victoire contre un tel monstre. Et quand on y réfléchit, c'est ce que l'on ressent quand on est en guerre contre Satan. Il a des têtes à différents lieux d'influence et il agit avec une dextérité impressionnante. C'est ce que l'on ressent. Il a 7 têtes, il a 10 cornes. Dans la Bible, les cornes sont le symbole de force. Et 10 parle de quelque chose qui est complet, qui est total, une force qui est totale. Ça veut dire que la puissance du mal dans ce monde qui est sous la domination de Satan est une puissance qui est exhaustive, qui est totale. C'est une puissance énorme contre laquelle nous nous battons. En Daniel 7, nous avons la description de différentes puissances dans le monde et il utilise le même langage de bêtes, de grands animaux. Le 4e animal qui décrit l'Empire romain est aussi décrit comme ayant 10 cornes. Les 10 cornes en Apocalypse font un lien avec l'Empire romain, mais ils décrivent surtout ce que l'Empire romain était, c'est-à-dire un empire qui voulait dominer sur le monde. Et les 10 cornes veulent décrire cela, la domination, 15e mot sur la feuille, la domination du monde, les royaumes du monde qui sont sous le contrôle de Satan et qui veulent dominer le monde. Et les 7 diadèmes renforcent cette idée. Ce ne sont pas les couronnes du vainqueur, non, ce sont les diadèmes de la domination que l'adversaire, que Satan a volé. La Bible parle fréquemment de l'adversaire avec des termes de personnages, royal. D'abord, il appelait le Dieu de ce monde. Ce n'est pas le vrai Dieu, c'est une contrefaçon. Mais Paul décrit, par exemple, en Éphésiens 2, verset 1, il le décrit comme le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et il aspire à la domination, il aspire à la royauté, il aspire au règne. Et en le voyant donc avec ses cornes et avec ses diadèmes, nous devons nous rappeler que Satan n'est pas un serviteur. Satan veut régner. Il cherche à régner. Le péché et Satan lui-même ne nous serviront jamais. Ils veulent régner avec une tyrannie terrible. Régner, 16e mot sur la feuille, pardon. Ils veulent régner avec une tyrannie terrible. Ils ne verront jamais ni Satan ni le péché dans lequel il veut nous entraîner. Nous devons nous servir. Ils veulent régner dans le cœur. Satan donc présente une contrefaçon, 17e mot, sur la feuille. Il veut remplacer le Seigneur Jésus-Christ, le véritable roi qui est couronné de plusieurs couronnes. L'aspiration la plus grande de Satan, c'est que l'Église chante, non pas comme nous avons chanté à l'agneau toutes les couronnes, mais il veut que on chante à Satan toutes les couronnes. Voilà son aspiration, voilà ce qu'il désire. Un commentateur écrit que Satan, il décrit Satan comme le guide méchant pour les nations, pour les rois et les royaumes corrompus. Bien sûr, cela inclut les remplis des empereurs romains qui voulaient être adorés comme Dieu, mais cela inclut aussi les exemples modernes comme la société humaniste, les gouvernements qui méprisent Dieu, qui méprisent sa parole et son peuple et qui veulent être adorés comme Dieu. Il est facile pour nous de prendre une personne, un personnage de l'histoire ou un personnage qui vit aujourd'hui et de dire « voilà, c'est lui l'Antichrist ». Non, mais quand nous voyons les puissances de ce monde qui s'attaquent à la parole de Dieu, qui conduisent le peuple dans le mal, qui persécutent l'Église, le peuple de Dieu, nous devons rappeler que derrière ces puissances du monde, il y a ce grand dragon rouge feu, l'adversaire, Satan lui-même. Mais Jean nous révèle que son combat, même s'il combat sur terre, même s'il intervient sur terre, son réel combat est dans le ciel. Il parle, il décrit au verset 4 que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et certains vont conclure un peu trop rapidement qu'il parle ici de la chute des anges lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu et qu'il a entraîné avec lui une partie des anges. Mais ce n'est pas cela dont il est question ici. Cela plutôt symbolise l'arrogance de Satan dans la guerre qu'il mène maintenant contre l'Église. Et on dit cela parce que le langage qui est utilisé, il vient de Daniel 8. Et Daniel 8, verset 10, parle d'Antiochus Épiphane. Nous avons déjà parlé de ce personnage, ce roi grec qui est venu, qui a persécuté le peuple d'Israël et qui a persécuté l'Église. Et on disait de lui qu'il balayait les étoiles du ciel. Et ce qui est dit, c'est que même si Satan attaque, mène des attaques sur terre, son combat est en réalité dans le ciel, 18e mot sur la feuille. Et ça, pour nous, quelque part, c'est encourageant. Parce que cela veut dire que Dieu est impliqué. Si Satan veut nous tenter à commettre le péché, s'il nous souffle des mauvais désirs dans notre esprit, en réalité, ce n'est pas nous qui l'attaquons, c'est Dieu qui l'attaque. Et c'est une bonne nouvelle, parce que cela nous rappelle que Dieu, si nous lui appartenons, sera notre défenseur, et que nous pouvons crier à lui et trouver notre refuge en lui. Il ne laissera pas Satan avoir la victoire. Et au verset 4, le dragon se rappelle de la promesse de Genèse 3, verset 15. Pendant toutes ces années de l'histoire dans l'Ancien Testament, l'adversaire Satan savait qu'un fils devait naître. Quand par exemple, il entend Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné », Satan va écouter avec attention. Et la vision que nous avons ici est une image qui est terrible. Une mère sur le point d'accoucher, et avec elle se trouve le dragon avec 7 têtes, prêt à attaquer l'enfant. 19e mot sur la feuille. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. C'est une image terrible. C'est l'image de l'Ancien Testament, toute l'histoire de l'Ancien Testament. En Genèse 3, le serpent a conduit Adam et Ève dans le péché, et Dieu a maudit le serpent. Il y aurait inimitié entre sa postérité et la postérité de la femme, mais sa postérité lui écrasera la tête. Qu'est-ce qu'il passe en Genèse 4? Il y a Caïn qui ne croit pas, Abel qui croit, Abel que Dieu accepte à cause ou par la foi dans le sang de Christ. Et qu'est-ce que Satan a inspiré à Caïn comme action? De tuer son frère Abel. Ce n'est pas que Satan veut tuer Abel lui-même, il veut tuer la lignée, il veut tuer la postérité de la femme, de ceux qui croient. Et il frappe dans une violence sanglante. Et on trouve cela tout au long de l'histoire de la Bible. Israël est invité en Égypte, rappelez-vous, par Pharaon. Joseph a été un grand homme au service de Pharaon. Pharaon va inviter, dire à Joseph, fais donc venir toute ta famille au pays d'Égypte. Et qu'est-ce que Satan a fait ? Il va travailler dans le cœur du pharaon suivant pour attaquer le peuple, pour attaquer la lignée, la postérité de la femme, pour essayer de détruire ce peuple. En Exode 2 et 3, par exemple, nous lisons comment Pharaon a donné l'ordre que tous les bébés mâles, garçons, israélites, devaient être mis à mort dès leur naissance. Le dragon attaque. Quand le roi Saül, plus tard, réalise que c'est David qui sera le roi et qui sera l'ascendant du Messie, il prend une lance et il la jette contre David. Quand Israël est en Babylone, déporté, Satan va inspirer Aman, qui va mettre sur pied un plan pour effacer toute la nation des Juifs. Mais c'était sans compter sur Esther que Dieu avait placée là et par laquelle il allait intervenir pour sauver le peuple d'Israël. On peut se rappeler les événements autour de la venue des mages à Bethléem. Ils avaient vu une étoile, ils sont venus adorer, rendre hommage au roi des Juifs. Ils sont allés voir Hérode. Les religions ont dit, voilà, l'Ancien Testament dit que le Messie devait être né à Bethléem. Qu'est-ce que Hérode a fait ? Il a envoyé des soldats pour tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Et dans toute l'histoire de la Bible, nous voyons l'adversaire, Satan, qui est animé de cette passion meurtrière, il est focalisé sur un seul objectif, détruire, 20e mot sur la feuille, détruire le sauveur qui a été promis, avant que ce sauveur ne le détruise, lui et son règne. Et cela nous amène au troisième acteur de cette vision, le Fils, 21e mot sur la feuille. Le personnage le plus important. La femme enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. L'apôtre Jean, dans sa première lettre au chapitre 3, verset 8, dit ceci, « Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » C'est une description très brève de Jésus-Christ, une description qui nous renvoie au psaume 2, psaume que nous avons déjà vu et qui revient très souvent dans le livre de l'Apocalypse. Le psaume, rappelez-vous, parle du tumulte parmi les nations, du soulèvement des rois de la terre contre l'Éternel et contre son roi. Mais il parle aussi du fait que Dieu va établir son Fils et lui donne le règne. 22e mot sur la feuille. Psaume 2, verset 9. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et on retrouve son langage ici au verset 5. Et quand toutes les tentatives de l'adversaire de détruire la postérité de la femme avant la naissance n'aboutissent pas. Lorsque Jésus est né, Satan ne va pas baisser les bras. Il veut entrer, par exemple, dans Judas Iscariote pour qu'il le livre. Il a manipulé les chefs religieux, il a manipulé le gouverneur romain, pour qu'il bâcle le procès, qu'ils exécutent le Seigneur Jésus-Christ sur une croix. Et finalement, le dragon a tué le fils. Mais sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ s'est exclamé, « Tout est accompli. » 23e mot sur la feuille. « Tout est accompli. » Ce qui paraît être une défaite pour le fils, ce qui apparaît être une victoire pour le dragon, est en fait la fin. Quand le Seigneur rend son esprit à Dieu le Père, le sacrifice d'expiation qu'il vient d'offrir a renversé le règne de Satan, a renversé son règne tyrannique de péché. Le Seigneur Jésus-Christ remporte la victoire. Et le verset 5 nous dit, nous poursuit, son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et là où Satan semblait triompher avec le corps de Jésus qui est là dans le tombeau, 3 jours après, Dieu le Père le ressuscite son fils et il le sort de l'emprise de la mort. Il l'exalte en puissance. Et la stratégie du diable s'est effondré en une défaite amère. Le Fils remporte la victoire. Nous allons développer cela dans les semaines à venir. Mais nous arrivons au quatrième point, donc, avec des applications, parce que cette vision s'applique, s'adresse à nous. En particulier dans le verset 6, où nous avons la description de ce qui se passe avec la femme après la naissance de l'enfant. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Trois applications pour nous ce matin. La première, c'est que le chrétien doit se rappeler que ce monde n'est pas sa demeure, n'est pas sa maison, 24e mot sur la feuille. Ce monde n'est pas le lieu où nos rêves deviendront réalité. Ce n'est pas l'endroit où tout va bien se passer. Nous sommes ici dans le monde du dragon, dans le royaume du dragon. La terre est sous la domination du malin. Bien entendu, cela reste sous la souveraineté absolue de Dieu, mais les gouvernements locaux, les instances de ce monde sont influencées par l'adversaire, le prince de ce monde. Cela veut dire que notre temps ici-bas, notre temps dans ce monde, ressemble plutôt à un voyage dans le désert, 25e mot sur le feuille. C'est un temps difficile, un temps d'épreuve, mais c'est aussi un temps de préparation pour notre véritable demeure dans laquelle nous entrerons au retour du Seigneur Jésus-Christ. Bien entendu, il y a des choses que l'on peut apprécier dans ce monde. Des choses, nous voyons encore la création que Dieu a faite. Nous voulons faire le bien dans ce monde dans lequel Dieu nous a placés. Mais nous ne trouverons jamais notre place dans ce monde et dans son système, parce que en Christ nous avons été sanctifiés pour prendre place dans un autre royaume, le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Et le monde ici est hostile aux croyants qui sont fidèles. Il est opposé à Christ et à son Église. Il ne peut pas nous aimer puisque nous ne sommes plus de ce monde. Cela veut dire que nous devons être spirituellement forts, que nous devons aussi être bibliquement méfiants et examiner toutes choses. Parce que cette vision nous rappelle que derrière les événements de l'histoire, derrière l'opposition de la mort de ce monde, derrière la perversion de morale que nous voyons dans ce monde, il y a un grand et puissant ennemi qui n'est autre que Satan lui-même. C'est ce que Paul a rappelé dans ce passage que nous avons lu tout à l'heure, en Éphésiens 6, et au verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et à cause de cela, nous n'allons pas nous reposer sur des combats dans ce monde. Bien sûr, nous devons être impliqués dans la vie de ce monde, dans notre communauté, dans le processus politique, par exemple. Nous avons la liberté de pouvoir voter, d'exprimer notre désir. Mais on ne va pas mener une bataille spirituelle de cette manière-là. Notre arme est la prière, 26e mot sur la feuille. La réunion pour prier, c'est le rassemblement des soldats de Dieu dans ce désert que nous connaissons. Notre épée, la parole de Dieu. L'adversaire n'aime pas non plus des vies saintes, des vies qui veulent être vécues en suivant le Seigneur Jésus-Christ. Notre appel n'est pas de renverser les puissances des ténèbres, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va le faire lorsqu'il reviendra dans la gloire. C'est lui qui détruira toute opposition, c'est lui qui apportera la justice. Nous ne sommes pas appelés, nous ne sommes pas équipés pour faire cela. Mais Paul nous dit en Éphésiens 6, verset 13, « Nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Nous sommes appelés à tenir ferme dans la vérité, dans l'amour fraternel, dans la sainteté, ne pas abdiquer aux demandes de ce monde, aux tendances de ce monde, ne pas faire de compromis avec ce monde, avec le péché, parce que cela ferait avancer la cause de notre ennemi. Non, nous devons réaliser que ce monde est opposé, parce que derrière ce monde, il y a l'adversaire, celui qui est l'ennemi de Dieu. Et il combat Dieu en combattant son peuple. Si l'on se sent pressé à se conformer à ce monde, nous devrons être conscients que derrière cette pression, il y a l'adversaire qui est à l'œuvre. Mais réaliser que nous n'appartenons plus à ce monde. Ce monde n'est pas notre demeure. Nous devons aussi, deuxièmement, réaliser que, comme le verset 6 le souligne, que Dieu prend soin de son Église. C'est le 27e mot sur la feuille. C'est une Église qui est dans le désert, bien entendu, qui est appelée à tenir ferme, mais Dieu en prend soin. Nous avons déjà vu que le chiffre de 1260 jours, ou 42 mois, ou 3 ans et demi, c'est une manière symbolique de décrire cette période de persécution contre l'Église, la période entre l'ascension du Seigneur Jésus-Christ et son retour dans la gloire, c'est-à-dire la période dans laquelle nous vivons. C'est une période qui est limitée dans le temps, mais c'est une période d'épreuve et d'opposition. Et pourtant, le désert dans lequel nous sommes est un lieu que Dieu a choisi pour protéger la femme, pour protéger l'Église. On peut penser parfois que c'est une chose terrible que d'être exclu du monde, que de ne pas trouver sa place, que de ne pas pouvoir faire les choses que le monde fait. Mais en fait, c'est un lieu de sécurité pour nous. 28e mot sur la feuille. C'est un refuge. Satan voudrait nous faire sortir du désert. Mais sortir du désert, c'est un lieu dangereux. Dieu a préparé un lieu pour protéger son peuple. Mais il a aussi préparé ce lieu pour pourvoir aux besoins de ce peuple, pour nourrir ce peuple. On se rappelle par exemple des corbeaux qui ont apporté le pain à Élie près de la source pendant 3 ans et demi. On pense à Israël dans le désert, lorsque Dieu a donné la manne et a nourri ce peuple. Dieu nourrit l'Église avec le pain de sa parole pour faire grandir son peuple, même au milieu de l'affliction. Et en fait, d'après ce passage, le désert est le lieu où le peuple de son alliance se rapprochera de lui dans l'amour, apprendra davantage à dépendre de lui de manière totale. Osée 2, versets 16 et 17, le prophète parle d'Israël, l'Éternel parle d'Israël en ces mots, en disant, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. C'est dans le désert que nous festoyons sur les richesses de Dieu, parce que Dieu prend soin de son peuple pendant toute la durée, avant de nous amener dans la gloire. Et troisième application, nous devons, si nous rappelons que nous combattons ce terrible ennemi, ce dragon impressionnant, nous devons aussi nous rappeler que ce terrible ennemi est déjà vaincu. 29e mot sur la feuille. Le Fils est né, la tête du serpent a déjà été écrasée. Ça fait toute la différence de savoir que l'ennemi, notre ennemi, aussi puissant soit-il, est déjà vaincu. Et que le Fils revient pour mettre un terme à ce conflit, pour manifester sa victoire totale aux yeux de tous. Il y a encore des batailles. Oui, certaines sont sanglantes, certaines sont difficiles. Nous devons combattre, nous devons nous revêtir de cette armure. Nous devons prendre position, cela peut nous coûter cher. Mais nous nous tenons avec le Seigneur Jésus-Christ. Avec bien sûr la reconnaissance pour ce qu'il a accompli pour nous, mais aussi avec l'assurance que nous nous tenons avec le vainqueur. La victoire est certaine pour lui et pour ceux qui lui appartiennent. Cette vision donc est une grande inspiration. Au milieu de nos épreuves, de nos manquements, nous voyons comment Dieu voit l'Église enveloppée de gloire, glorieuse, lavée de ses péchés, couronnée d'étoiles. Nous voyons aussi ce qui se passe dans l'histoire, la lutte entre le dragon et l'enfant, le Fils. Et nous réalisons que nous sommes dans un lieu où Dieu nous garde et nous nourrit. Au verset 11, Jean dira, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Christ a vaincu et nous entrons dans sa victoire en nous tenant avec lui. 30e mot sur la feuille. Par la parole de notre témoignage, en proclamant la victoire de son évangile, la gloire certaine du royaume qui vient lorsque le Seigneur Jésus-Christ revient victorieux. Une merveilleuse vision donc qui nous ouvre cette deuxième partie de l'Apocalypse. Nous allons voir de plus en plus de détails concernant ce conflit qui existe, la réalité de ce conflit qui existe derrière, dans les coulisses de l'histoire. Derrière ce que nous pouvons voir dans ce monde, nous avons l'explication de ce qui se passe. Mais nous savons que la victoire est certaine, la victoire est accomplie. Et le Seigneur Jésus-Christ revient victorieux. Et nous sommes victorieux avec lui. Nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole, qu'il nous aide à nous réjouir, même au milieu de cette traversée du désert, qui nous aide à nous réjouir en lui, à nous réjouir dans ce qu'il a fait, mais aussi à nous réjouir dans cette perspective qui est la nôtre, de participer à cette victoire, parce que nous nous tenons avec Christ. Que Dieu donc bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Amen.